Vous êtes sur RTL.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Elle est obsédée par la langue française, elle nous instruit, on apprend plein de choses, c'est notre cours particulier. Bonjour.
Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez répondre à toute une classe de la Nièvre.
Eh oui Stéphane, les CM1, CM2 de Donzy, près des vignes de Sancerre et de Pouilly-sur-Loire, vous voyez là. Alors ils se demandent quelle est l'origine du mot surnom, car m'écrivent-ils, souvent le surnom que l'on donne à quelqu'un n'a aucun rapport avec son nom.
Alors d'abord, est-ce qu'ils ont raison ?
Alors, parfois, c'est vrai, le surnom n'a que peu de ressemblance avec le nom. Le Littré nous apprend que le surnom est bien, au sens premier, un mot ajouté au nom propre d'un individu pour le distinguer d'autres qui s'appellent comme lui. Voilà pourquoi c'est un surnom. Il vient en plus du nom. Et le dictionnaire donne les exemples célèbres de Guillaume le Conquérant ou de Charlemagne. Le Magne de Charlemagne, hein, c'est le Magnus latin qui veut dire grand, donc c'est Charles le Grand.
On est d'accord qu'il n'y a pas que les rois et les princes qui aient eu des surnoms. Hein.
Oh, tout le monde peut recevoir un surnom. Je dis recevoir parce que l'une des caractéristiques du surnom, c'est qu'on ne peut pas se le donner à soi-même. Souvent, il a trait à une particularité physique ou morale. C'est pas toujours très flatteur. C'est le sobriquet, hein, on appelle ça comme ça. Et vous ne saurez pas forcément qu'on vous appelle gras double ou grande perche ou rase bitume ou boule de billard. Hein. Il arrive aussi par moquerie qu'on dise l'inverse de ce qu'on pense de vous. Et on vous appellera peut-être gracieuse dans votre dos si vous êtes particulièrement peu souriante. Ou Einstein si on vous prend pour une andouille. Et puis il y a les mignons petits noms, les diminutifs qu'on donne aux personnes qu'on aime, en famille, à la maison, qui font que Thomas sera appelé Toto, Gabriel Gabi, Lucas Lulu et Muriel Mumu. Mais le plus étonnant, c'est que les surnoms ont eu une influence énorme sur les noms de famille que nous portons.
Comment ça ?
Eh bien avant le Moyen-Âge, chaque nouveau-né recevait un simple nom de baptême unique. Mais avec le temps, on s'est retrouvé avec tant d'homonymes de personnes portant le même prénom qu'on a dû utiliser des surnoms pour les différencier. J'ai découvert tout ça dans un livre passionnant, les surnoms les plus célèbres de l'histoire. C'est de Daniel Lacotte aux éditions Pygmalion, je vous le conseille. Donc, on s'est mis à préciser Louis le Grand pour le différencier de Louis le Petit. Jean le Blond pour ne pas le confondre avec Jean le Brun. Jacques le Doux, Jacques le Beau ou bien Paul Dupuis qui habitait près du puits pour le distinguer de Paul Boulanger qui faisait le pain et de Paul Charron qui fabriquait les chars et les charrettes. Et finalement, ces surnoms se sont transmis de père en fils et en fille. Mmh. Et à partir du XIIe siècle, ils sont devenus nos noms de famille.
Ouais, ça c'est vrai, le nombre de gens qui s'appellent Le Grand, Petit, Dupuis, Dupont.
Et voilà, et il y a parfois des noms qui nous semblent un peu plus obscurs, mais regardez, Calvet désignait un chauve, Doucet un homme doux, Le Sage un homme savant, Hardy ou Vaillant un courageux. Tandis que Dubosc habitait près du bois, Duhamel dans le hameau, Casanova la maison neuve, Lacoste dans la côte, Farge, Fort ou Lefèvre étaient des forgerons, Sabatier était un sabotier. Et vous, il y a de grandes chances que vous soyez l'arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils d'un charpentier, ouais. Stéphane Carpentier.
C'est vrai qu'il y a de grandes chances. Merci à vous, Muriel Gilbert. Ce bonbon passionnant, une nouvelle fois, on peut le retrouver en podcast directement sur l'appli RTL.